Le médecin des pauvres. Prologue. Chapitre 3. Le prologue d'un drame. Hélas, Pierre Prost devait acquérir bien vite la certitude que tout ce qui se passait pendant cette nuit sinistre avait un terrible cachet de réalité. « Eh bien ?» demanda le masque noir au moment où les deux hommes et le médecin rentrèrent dans la pièce qu'ils n'avaient pas quittée. « Est-ce fait ?»«
C'est fait, monseigneur. » lui fut-il répondu.
Le masque noir se tourna vers Pierre Prost. « Écoutez-moi, dit-il, et tâchez d'oublier pour un instant vos chagrins, afin de me bien comprendre. Chacun des outils de chirurgie dont vous vous servez pour la guérison d'un blessé est entre vos mains un instrument passif et docile. Il vous sert, mais sans en avoir conscience. Tant qu'il vous est utile, vous le conservez avec soin. S'il use et s'il devient mauvais et dangereux, vous le brisez et vous le jetez loin de vous. Cette nuit, entre mes mains, vous allez devenir un instrument pareil à ceux de votre profession. De même que vous vous servez d'eux, je vais me servir de vous. Vous m'obéirez comme ils vous obéissent, et sans même chercher à comprendre quel est le but du service que vous me rendez. Grâce à cette obéissance prompte et passive, vous n'aurez rien à craindre. Il ne vous sera fait aucun mal. Et dans quelques heures, vous serez de retour ici, sain et sauf. Mais si vous essayez seulement une résistance insensée, si jamais, après m'avoir obéi cette nuit, vous cherchez la clé d'un mystère qui doit rester impénétrable pour vous, si jamais une parole indiscrète vous échappe, fût-ce dans 10 ans, fût-ce dans 20 ans, souvenez-vous de ce que je vais vous dire, et ne croyez point que ce soit une vaine menace. Je vous retrouverai partout, si bien caché que vous puissiez être. Et je vous briserai comme on brise un instrument inutile et dangereux. Ne l'oubliez pas et ne me forcez point à m'en souvenir. » Le masque noir se tut. Pierre Prost, debout en face de lui, attachait son regard sur les trous de ce carton impassible, recouvert d'un velours inerte, au fond desquels étincelaient les yeux de son interlocuteur, pareils à des lampyres dans le creux sombre d'un rocher. « M'avez-vous entendu ?» demanda le masque noir. « Oui. » répondit le médecin. « M'avez-vous compris ?»« J'ai compris que vous aviez quelque chose de terrible à me recommander, et qu'il me fallait vous obéir à l'instant, et me taire à toujours, ou que j'étais perdu. Est-ce cela ?»«
Oui, c'est cela. Et que décidez-vous »«
Rien. Rien du moins avant que vous ayez répondu à une question que je veux vous adresser. »«
Et cette question ?»«
La voici. Quand 3 hommes masqués, dont l'un est un seigneur, viennent la nuit chez un pauvre médecin ignoré, chez un paysan comme moi, et quand l'un de ces hommes, le seigneur, dit au paysan « J'ai besoin de toi, si tu ne m'obéis pas, c'est la mort, si tu me trahis, c'est encore la mort », n'est-il pas permis et vraisemblable de supposer que c'est pour un crime que le gentilhomme a besoin du médecin ? S'agit-il en effet d'un crime entre nous, monseigneur ? Votre réponse dictera la mienne. Si vous réclamez mon concours pour quelque œuvre infâme, et s'il faut obéir ou mourir, tuez-moi tout de suite. Je n'obéirai pas. »
Le masque noir haussa les épaules.
« Eh ! » s'écria-t-il, « vous êtes fou ! C'est pour accomplir une bonne action, et non point pour commettre un crime que j'ai besoin de vous. Il y a 2 créatures humaines à sauver. Une femme qui se tord dans les angoisses de l'enfantement, et l'enfant qui va naître d'elle. » Pierre Prost n'hésita plus. Il ouvrit l'immense armoire dont nous avons parlé et il y prit quelques instruments d'acier enveloppés dans un étui de peau. « Est-ce là tout ce qu'il vous faut pour un accouchement ?» demanda le masque noir.
« Oui. »«
Alors, vous êtes prêt à nous suivre ?»«
Je suis prêt.
Dans ce cas, il me reste une dernière précaution à prendre. »«
Laquelle ?»«
Celle-ci. » Le gentilhomme fit un signe et l'un de ses compagnons attacha sur le visage du médecin un masque de velours qui n'avait pas d'ouverture à la place des yeux. Pierre Prost, ainsi aveuglé momentanément, se contenta de dire « Je vous préviens qu'il ne me sera point possible de pratiquer sans y voir même l'accouchement le plus simple. « On vous rendra l'usage de vos yeux quand il le faudra, » répondit le masque noir. « Venez. » En même temps, il lui prit la main et il l'entraîna, lui faisant traverser rapidement la seconde pièce et l'enclos, jusqu'à la porte à claire-voie qui s'ouvrait sur le chemin de Longchaumois. De l'autre côté de cette porte se trouvait un équipage bizarre. « Vous avez vu souvent, n'est-ce pas, ces chariots dont les paysans se servent pour aller aux foires, et qui, dans leur simplicité rustique, se composent d'un train allongé, placé sur quatre roues et recouvert d'une toile épaisse, tendue et arrondie sur des cerceaux. Deux chevaux noirs, d'une grande beauté, étaient attelés à un chariot pareil, dont on avait seulement remplacé les roues par des patins de traîneau. Ces chevaux piaffaient dans la neige et hennissaient d'épouvante à chacun des bruits étranges et grandissants de la tempête. Un homme, debout en face d'eux et les mains posées sur leur mors, avait toutes les peines du monde à les maintenir en place. Dans l'intérieur du traîneau se trouvaient deux ou trois bottes de paille. Pierre Prost, toujours guidé par le masque noir, s'assit sur l'une de ses bottes. Le gentilhomme se plaça à côté de lui, les deux hommes s'étendirent derrière eux. Le quatrième inconnu, celui qui n'avait pas quitté l'attelage, s'élança d'un bond sur le cheval de droite, saisit les rênes, et le traîneau s'ébranla, impétueusement emporté. Si profondes, si douloureuses que fussent les deux blessures qui saignaient au cœur de Pierre Prost, ce dernier fut forcément distrait de ses cuisants chagrins, de ses regrets amers, par la prodigieuse étrangeté de sa position, dont il ne se dissimulait point le danger réel, malgré les quelques paroles rassurantes du masque noir. De même que les abîmes et les gouffres vertigineux attirent fatalement le corps, de même le mystère attire la pensée humaine. Malgré lui, Pierre Prost se mit à songer à cette incompréhensible aventure dans laquelle le hasard ou la fatalité lui donnait un rôle. Malgré lui, il s'efforça de sonder par la réflexion les ténèbres qu'on faisait en sorte d'épaissir autour de lui. Et tout d'abord, il se demanda où donc on le conduisait. Sans cesse, par voies et par chemins, la nuit comme le jour, le médecin connaissait tout le pays, aussi bien qu'un aveugle connaît les rues qu'il a l'habitude de parcourir sans guide. Et s'il se fût trouvé à la porte de son enclos, les yeux bandés et un bâton à la main, il n'eût point été embarrassé pour se rendre à un tel endroit, distant de 3 ou 4 lieues, qu'on aurait jugé convenable de lui désigner. Mais la situation n'était plus la même. Au lieu d'être à pied, foulant le sol et pouvant chercher du bout de son bâton quelque arbre ou quelque rocher dont le gisement lui aurait servi de point de repère, il se trouvait dans un traîneau qui courait avec une rapidité furieuse, et il ne savait même pas vers lequel des points cardinaux ce traîneau s'était dirigé au moment du départ. Le conduisait-on du côté de Clairvaux, du côté de Saint-Claude, du côté de Champagnole? La solution du problème restait pour lui à l'état de vague conjecture. Pierre Prost espéra d'abord trouver un indice dans le ralentissement de la marche des chevaux, aux nombreuses et rudes montées qui se rencontrent à chaque instant dans le Jura. Mais à chacune de ces montées, les chevaux ardents et vigoureux prenaient le galop, et la vélocité de leur course, bien loin de diminuer, augmentait. Les patins ferrés du traîneau traçaient leur sillon dans la neige glacée avec une sorte de sifflement aigu, jetant une note claire et continue au milieu du concert sauvage que les grandes voix de la tempête donnaient aux montagnes ébranlées. Cette course fantastique dura près de 2 heures. Une fois, une seule fois, il sembla à Pierre Prost que la vibration métallique d'un beffroi arrivait jusqu'à lui à travers les déchaînements de la tourmente. Mais n'était-ce point une illusion? Et d'ailleurs, ce beffroi pouvait retentir soit à Champagnole, soit à Saint-Claude, et rien ne disait qu'il se trouvât plutôt dans le clocher d'une ville que dans celui de l'église d'un hameau ou de la chapelle d'un monastère. L'esprit du médecin se perdait dans un dédale où manquait tout fil conducteur, et il devenait évident pour lui que hasarder même une conjecture serait un acte de véritable folie. Soudain, Pierre Prost tressaillit. Ce bruit rauque et strident que produisent les bergers en soufflant dans une corne de bœuf pour rassembler leurs troupeaux, ce bruit d'une incomparable puissance qui se fait entendre à des distances énormes, même quand l'ouragan mugit et que le vent est contraire, ce bruit, disons-nous, retentit tout près de lui et sur le traîneau même. À coup sûr, l'un de ses compagnons venait de donner un signal. Une demi-minute s'écoula. Puis un nouveau son de trompe se fit entendre d'une façon distincte, quoique affaiblie par l'éloignement. C'était sans doute une réponse. Les chevaux, surexcités par le fouet et l'éperon, bondirent et leur vitesse accrue sembla dévorer l'espace. Cette impétuosité dura peu, un quart d'heure au plus. Au bout de ce temps, les mouvements du traîneau se ralentirent tout à coup. Les brusques saccades des coups de collier indiquaient clairement que l'attelage gravissait une rampe presque inaccessible. Les sabots ferrés glissaient sur la terre cristallisée. Le traîneau, par instants, s'arrêtait et même reculait. Les coups de fouet et les énergiques jurons du conducteur se succédaient sans relâche. On allait arriver à une demeure située sur le plateau d'une montagne formidable. Le médecin n'en pouvait douter. Mais quelle était cette demeure? Un grand nombre des vieux manoirs franc-comtois s'asseyaient fièrement, ainsi que des nids d'aigle, sur quelques pics décharnés. Si bien que de la position de ce manoir, Pierre Prost ne pouvait tirer aucune induction. Cette rampe ardue et périlleuse fut longue à franchir. Enfin, les chevaux essoufflés respirèrent plus librement. Ils firent quelques pas encore et le traîneau s'arrêta. Un second appel de trompe retentit. À cet appel succéda un bruit de chaîne, puis le retentissement sourd d'un pont-levis qu'on abaissait, puis le fracas d'une lourde porte bardée de fer qui tournait sur ses gonds. Le traîneau se remit en marche et ses patins grincèrent sur des pavés qu'ils écorchaient. On passait sous une voûte. Immédiatement après, la neige recommençait à couvrir le sol. Les chevaux firent environ 50 ou 60 pas. Ensuite, ils traversèrent un second pont-levis et passèrent sous une nouvelle voûte. Ce château prenait en vérité des allures de forteresse. Le traîneau glissa sur la neige pendant 1 ou 2 minutes et s'arrêta. « Nous sommes arrivés, » dit le masque noir. Et reprenant la main de Pierre Prost, il le fit descendre de la même façon qu'il l'avait fait monter. À la manière dont le vent mugissait autour de lui et dont la neige, chassée par la tempête, fouettait les parties de son visage que le masque ne protégeait pas, le médecin comprit qu'il se trouvait dans un endroit entièrement découvert. Son guide, qui d'une main vigoureuse lui serrait toujours le poignet, essaya de lui adresser quelques paroles, mais le fracas des éléments était tel, sur ces hauteurs sans abri, que les mots prononcés s'évanouirent comme un murmure indistinct. Pierre Prost se sentit alors entraîné par le gentilhomme aussi rapidement que le permettait la neige amoncelée, dans laquelle tous deux enfonçaient jusqu'à mi-jambe. Enfin, les pieds du médecin se heurtèrent contre un seuil de pierre, et il serait tombé si son guide ne l'avait soutenu. Une porte, ou plutôt une poterne, s'ouvrit. Elle était si basse que le masque noir, avant de la franchir, dit au médecin « Baissez-vous !» Pierre Prost obéit, et par un mouvement machinal, élevant sa main gauche au-dessus de sa tête pour garantir son front, il rencontra le premier arceau d'une voûte surbaissée. Le masque noir cessa de marcher et referma la porte. Pendant ce temps d'arrêt, le médecin prêtait l'oreille à un bruit bizarre et sinistre qui descendait jusqu'à lui, faible et cependant distinct, et ne se confondant point avec les hurlements de la tempête qui faisait rage au dehors. C'était une sorte de râle strident et continu, des gémissements sourds, des plaintes déchirantes qui venaient couper des cris d'agonie. Le médecin n'avait pas peur, mais les idées superstitieuses qui faisaient à cette époque partie inhérente des croyances intimes de tout montagnard franc-comtois, aussi bien que celles de tout paysan breton, commençaient à se réveiller dans son esprit où elles avaient sommeillé longtemps. « Ne suis-je pas, se demandait-il, dans une de ces étranges et mystérieuses demeures que le génie du mal s'est, dit-on, construite sur certains pics inaccessibles? Et cet homme masqué qui m'a conduit ici, n'est-il pas le démon lui-même ? » Pierre Prost n'eut pas le temps de formuler une réponse à la question qui se posait en ces termes. Le masque noir lui dit brusquement « Dans quelques secondes, votre tâche va commencer. Mais d'abord, vous souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit dans votre maison ?»« Je m'en souviens, » répliqua Pierre Prost, « et je me souviens aussi de ce que je vous ai répondu. » »« Je vous répète, » reprit le masque noir, « je vous répète que vous n'êtes point ici pour faciliter l'accomplissement d'un crime. » Quand une femme se débat sur sa couche, dans les douleurs de l'enfantement, celui qui voudrait se débarrasser de la tige ou du rejeton n'aurait pas besoin, vous le savez, d'appeler un médecin à son aide. La mort viendrait bien toute seule. « C'est vrai, » murmura Pierre Prost. « Vous allez vous trouver en présence d'une femme, » continua le masque noir. « Cette femme ne vous connaît pas plus que vous ne la connaissez vous-même. Et d'ailleurs, vous ne verrez pas son visage, et elle ne verra point le vôtre. Je vous défends de parler à cette femme. Je vous défends de lui répondre si elle vous parle. Une seule parole prononcée par vous, ne l'oubliez pas, serait le signal de votre mort, et peut-être ne mourriez-vous pas seul.
Jurez-vous de garder le silence ?
Je le jure.
Ne jurez-vous sur les tombes de votre femme et de votre enfant ?
Sur les tombes de ma femme et de mon enfant, je le jure.
Touchez ceci. Et le masque noir mettait dans la main de Pierre Prost la crosse froide d'un pistolet. Puis il continua. Je vous jure à mon tour de vous briser la tête avec cette arme si vous manquez à votre serment.
C'est bien, répondit Pierre Prost. Mais si, comme je le crois, la malheureuse dont les gémissements et les cris arrivent jusqu'à nous est celle que je dois secourir,
hâtons-nous, car le temps presse. Et peut-être est-il trop tard.
Vous avez un escalier devant vous, dit le masque noir en reprenant le poignet du médecin pour le guider et pour le soutenir.
Venez donc, et tout en montant, courbez-vous, car la voûte est basse.
Et il se remit à marcher en s'engageant le premier dans l'escalier.
Le médecin le suivit et, tout en montant, il compta 22 marches.
À mesure qu'il avançait, les plaintes et les cris se faisaient plus distinctement entendre. À la 22e marche, il n'y avait plus, entre les gémissements de la femme en travail et les oreilles du médecin, que l'épaisseur d'une porte.
Le masque noir ouvrit cette porte et, poussant Pierre Prost dans l'intérieur, il le fit passer devant lui en répétant
« Souvenez-vous ! »
En même temps, il délia les cordons qui retenaient le masque de velours sur le visage du médecin, à qui il rendit ainsi le libre usage de la vue.
Ébloui d'abord par la clarté vive d'une lampe de fer et par les rayonnements d'un grand feu, ou plutôt d'un brasier de fascines enflammées qui se consumait dans une cheminée immense, Pierre Prost put bientôt jeter un regard investigateur sur les objets qui l'entouraient. Mais là aussi, toutes les précautions avaient été prises de façon à ce que nul indice ne vînt se graver en sa mémoire et l'aider plus tard à décrire et à reconnaître le lieu dans lequel il venait d'être amené. C'était une pièce de moyenne grandeur et qui ne renfermait d'autres meubles qu'un lit de chêne noir sans sculpture. On avait cloué à la hâte, sur les murailles, des tapisseries retournées dont l'envers n'offrait aucun sens. On en avait tendu le plafond, on en avait garni le plancher. Le manteau de la cheminée, qui portait peut-être des armoiries, disparaissait sous un lambeau d'étoffe épaisse. La plaque du foyer était toute unie. Deux pierres grossièrement taillées remplaçaient les chenets. La lampe de fer était une de ces lampes communes, fort en usage à cette époque, dans les plus pauvres demeures. Toutes les chaumières des paysans s'en trouvaient pourvues. En face du lit, une fenêtre était pratiquée dans l'épaisseur de la muraille. On avait masqué l'embrasure de cette fenêtre avec un drap cloué au plafond. D'ailleurs, la nuit était profonde, et quand bien même Pierre Prost aurait pu pénétrer dans l'embrasure, il n'aurait vu au dehors que les ténèbres. Au chevet du lit, un homme se tenait debout et immobile. Cet homme était vêtu de noir et masqué comme ceux qui avaient emmené le médecin hors de sa maison. Il s'inclina respectueusement devant le gentilhomme inconnu, qui tenait toujours de la main droite le pistolet dont il avait fait toucher la crosse au médecin avant de gravir avec lui les marches de l'escalier, puis il s'écarta et alla se placer auprès de la cheminée. Enfin, sur le lit en désordre, une femme se débattait dans d'intolérables tortures, heurtant sa tête contre la muraille et justifiant d'une façon cruelle ses paroles adressées par le dieu vengeur à Ève, chassée du paradis terrestre. La femme enfantera dans la douleur. Le médecin des pauvres, prologue, chapitre 4, l'églantine. Cette malheureuse femme était plus que masquée. On avait jeté sur sa tête une sorte de cagoule attachée autour de son cou et fendue seulement à l'endroit de la bouche afin de rendre la respiration possible. Les formes admirablement pures de ses épaules, de sa poitrine et de ses bras, qui se modelaient sous les draps humides d'une sueur glacée, indiquaient la jeunesse en toute sa fleur. Au moment où le masque noir, en entrant dans la chambre avec le médecin, prononça ces deux mots « Souvenez-vous », la femme couchée tressaillit. Un tremblement convulsif secoua ses membres et ses gémissements s'arrêtèrent. Quel bourreau sinistre était-ce donc que cet homme, pour que la douleur elle-même comprît qu'elle devait faire silence à son approche ? Le masque noir s'avança jusqu'au lit. « Madame, dit-il d'une voix lente, le médecin qui doit vous délivrer m'accompagne. Il est là. Ainsi que vous, il est prévenu que toute parole échangée entre lui et vous serait le signal de sa mort et de la vôtre. Ne l'oubliez ni l'un ni l'autre. » Puis se tournant vers Pierre Prost, il ajouta À l'œuvre maintenant, médecin. Faites votre devoir. »
Pierre Prost se mit à l'œuvre en effet. Il nous paraît nécessaire de jeter un voile sur cette scène de torture.
Il nous faudrait avoir la plume de Balzac, cette plume d'airain qui burina les pages splendides de l'enfant maudit, pour rendre tolérables des détails tout à la fois douloureux et révoltants. Nous dirons seulement que ni le sang-froid, ni l'habileté ne firent défaut au médecin, et qu'au bout d'une heure, il recevait dans ses mains une pauvre petite créature qui poussait son premier vagissement. En même temps, la mère, épuisée, retombait sans connaissance sur l'oreiller.
« Quel est le sexe de cet enfant ?» demanda le masque noir.
« C'est une fille, » répondit Pierre Prost.
« Le diable est pour moi, » murmura l'inconnu.
« Où sont les langes dans lesquels je puis l'envelopper ?» reprit le médecin.
« Les langes ?» répéta l'inconnu.
« Voilà un détail auquel, certes, personne n'a songé.
Mais il est facile de suppléer à cet oubli. »
Tout en parlant, il s'approcha de l'embrasure et, déchirant un large morceau de drap blanc qui servait à la masquer, il apporta à Pierre Prost ce lambeau d'étoffe en lui disant « Prenez ceci. À défaut d'autre chose, cela pourra servir. » Le médecin emmaillota l'enfant de son mieux.
« À présent, » continua le masque noir, « occupez-vous de la mère. On dirait qu'elle vient d'expirer. »
Un des bras de la jeune femme évanouie pendait inerte hors du lit. Pierre Prost appuya son doigt sur l'artère de ce bras.
« Eh bien ?» demanda l'inconnu avec un accent de profonde insouciance.
« Est-elle vivante ? Est-elle morte ?»«
Elle est vivante, » répondit le médecin au bout d'un instant.
« Mais je crains... »«
Que craignez-vous ? » ?»«
Je crains que le sang, qui me paraît refluer vers le cerveau avec une terrible violence, ne détermine promptement la mort. »«
Pouvez-vous éviter cela ?»«
Peut-être. »«
Et de quelle façon ?»
Par une saignée immédiate.
Eh bien, saignée ! Qui vous en empêche ?
Il faudrait avant tout m'assurer que les symptômes que je crois remarquer ne me trompent point. Ne pourrais-je voir le visage de cette femme ?
Non, de par tous les diables ! S'écria le masque noir avec impétuosité et frappant du pied.
Non, vous ne le pouvez pas !
Est-ce donc la curiosité qui vous pousse à m'adresser cette folle demande ?
Si cela est, malheur à vous !
Ce n'est pas la curiosité, répliqua Pierre Prost. C'est la nécessité. Dans la situation où se trouve cette femme, une saignée, c'est le salut peut-être, mais peut-être aussi c'est la mort. Le visage seul pourrait m'apprendre d'une façon certaine ce que je suis réduit à conjecturer.
Je vous répète que vous ne verrez pas ce visage. Cela est impossible.
Impossible, vous entendez bien. Impossible.
Saignez donc, si vous croyez que cela puisse sauver cette femme, mais hâtez-vous.
Et si je la tue ?
Eh bien, si vous la tuez... répliqua le masque noir avec un ricanement sinistre, « vous n'aurez rien à vous reprocher, ayant agi de votre mieux et selon votre conscience. D'ailleurs, s'il y a crime ou seulement péché, je prends l'un et l'autre sur ma conscience. »
« Faites-moi donner un bassin et des bandelettes, » murmura Pierre Prost. « Je vais tenter la saigner, en priant Dieu de ne point permettre que ma main devienne même innocemment une main homicide. »
« Priez, priez !» s'écria le masque noir. « Je n'y vois nul obstacle, et si Dieu ne vous écoute pas, le diable vous écoutera peut-être. »
En entendant ces paroles blasphématoires, Pierre Prost se signa. Le masque noir se mit à rire bruyamment. Il fit ensuite un signe à l'homme qui se tenait debout auprès de la cheminée et qui, soulevant un pan de la tenture retournée, cloué contre les murs, disparut par une porte dont le médecin jusqu'à ce moment n'avait point soupçonné l'existence. Au bout d'une minute, il reparut apportant un bassin de cuivre. Pendant son absence, le masque noir avait déchiré un nouveau morceau du drap blanc et avec ce morceau, le médecin préparait des bandes. Dans un coin de la chambre, l'enfant posé sur la tapisserie qui couvrait le plancher vagissait lamentablement. Au dehors, la tempête mugissait avec un redoublement d'impétuosité. Les petits carreaux de l'unique fenêtre tressautaient et cliquetaient dans leurs alvéoles de plomb. Tout était prêt. Pierre Prost lia au-dessus du coude le bras de la jeune femme, toujours évanouie, et piqua la veine. Le sang coula d'abord lentement, goutte à goutte, puis plus vite, puis enfin il jaillit comme un long filet de pourpre. Pierre Prost le recevait dans le bassin de cuivre. Au bout d'un instant, un profond soupir souleva la poitrine de la couchée.
« Elle revient à elle, » dit le médecin. « Le danger n'existe plus, du moins celui que je redoutais tout à l'heure. »
La jeune femme fit un mouvement comme pour se soulever et balbutia d'une voix éteinte.
« Mon enfant ! Où est mon enfant ? Le masque noir s'était approché vivement. Il appuya son doigt sur sa bouche pour commander le silence à Pierre Prost, qui serrait la veine avec des bandes de toile afin d'arrêter le sang, et il répondit « Votre fille est vivante, madame, et elle vivra, à moins que vous-même ne la condamniez à mort en cherchant à la revoir. »
« La revoir ? La revoir ? Oh mon Dieu, vous allez donc me l'enlever ?»«
Oui, madame. » »«
Et je ne la reverrai jamais ?»«
Jamais. » On entendit des sanglots étouffés sous la morne cagoule, puis au bout d'une seconde, la pauvre jeune mère reprit.
« Permettez-moi, du moins, de l'embrasser une fois, une seule, avant de me séparer d'elle pour toujours. »«
Ah, je sais que vous êtes sans pitié, messire. Je sais que vous êtes bien cruel. Mais vous ne le serez pas assez, cependant, pour me refuser ce que je vous demande. Un seul baiser de ma fille. »«
Embrassez-la donc, » répondit le masque noir, « mais n'ajoutez pas une parole. »
Et se tournant vers Pierre Prost, il dit « Donnez-lui son enfant. » Le médecin obéit. Oh, ce fut alors une folle étreinte. Ce fut un moment de véritable délire que cette minute où la pauvre mère put appuyer contre son cœur et couvrir de ses baisers ce fruit de ses entrailles, cette créature faible et gémissante qu'elle ne pouvait voir et que sans doute elle ne verrait jamais. Mais tandis qu'elle la dévorait de caresses ardentes, le masque noir donna des signes manifestes d'une impatience croissante et mal contenue. Déjà ses lèvres s'entr'ouvraient pour ordonner à Pierre Prost de reprendre l'enfant et de l'emporter, quand un incident inattendu vint accorder à la malheureuse mère quelques secondes de répit. Une nouvelle rafale, plus terrible que toutes celles qui l'avaient précédée, passa dans les airs avec des sifflements et des mugissements étranges, et vint se heurter contre les murailles massives, comme se heurtent les vagues de l'océan aux rochers de Penmark. Plusieurs des carreaux de la fenêtre cédèrent sous le choc, jaillirent de l'étain décelé et se brisèrent en mille éclats dans leur chute. Le vent s'engouffra par ces étroites ouvertures. Un puissant courant d'air s'établit entre la fenêtre et la cheminée, et les charbons ardents, soulevés comme des fétus de paille dans un crible, se répandirent à travers la chambre qui se remplit aussitôt d'une épaisse fumée. Déjà, la tapisserie qui couvrait le plancher et le plancher lui-même prenaient feu par endroits. Un incendie était imminent. Ce danger immédiat, et que la violence de la tempête rendait plus redoutable encore, fit oublier pendant une seconde au masque noir ses autres préoccupations. Il s'élança pour écraser du pied les charbons enflammés disséminés çà et là. Pierre Prost profita de cet instant rapide comme l'éclair pour se pencher sur le lit et pour murmurer « Soyez tranquille, pauvre mère, je veillerai sur elle. » La femme à qui ces paroles étaient adressées n'y répondit pas, mais sa main s'empara de celle du médecin, dans laquelle elle glissa un objet d'un très petit volume. La lampe était éteinte, la fumée âcre et étouffante de la laine brûlée formait un épais brouillard. Pierre Prost ne put voir cet objet que l'accouché venait de lui donner ainsi furtivement, et il le cacha dans sa poitrine. En ce moment, le masque noir se rapprocha de lui avec inquiétude et défiance. « Vous n'avez plus rien à faire ici, » dit-il, « il faut partir. » Et il ajouta, en arrachant brutalement la petite fille des bras de sa mère et en s'adressant aux serviteurs masqués et vêtus de noir qui avaient assisté sans prononcer une parole à toutes les scènes qui précèdent, « Prenez cet enfant et descendez, nous vous suivons. » En même temps, il attachait sur le visage du médecin ce masque sans ouverture qui le rendait momentanément aveugle. « Venez, » continua-t-il en le saisissant par la main gauche. Une de ces soudaines inspirations qui jaillissent parfois comme un rayon lumineux dans les circonstances suprêmes, traversa l'esprit de Pierre Prost. Le bassin de cuivre, rempli de sang, était par terre, à ses pieds, il le savait. Il se baissa rapidement, comme s'il faisait un faux pas, et il trempa dans le sang, sa main jusqu'au poignet. Le masque noir crut que le médecin avait trébuché. Il l'entraîna et il le fit sortir de la chambre. Pierre Prost compta, comme en montant, les 22 marches de l'escalier. Arrivé en bas, il éleva sa main ainsi qu'il l'avait faite en venant, mais non plus cette fois pour préserver sa tête, et il imprima sur la voûte la trace de ses doigts sanglants. Le masque noir ne remarqua point cette action. « Vous avez fait ce que j'attendais de vous, » dit-il en s'arrêtant et avant d'ouvrir la porte basse, derrière laquelle on entendait l'ouragan mugir. « Vous m'avez servi. Il est juste que vous soyez récompensé. » « Je ne demande rien, » répondit Pierre Prost. « Je ne désire rien. »
Je ne suis point de ceux qui acceptent des services gratuits, fit l'inconnu avec hauteur. Et d'ailleurs, j'attends encore quelque chose de vous. Prenez ceci. Tout en parlant, il mettait dans la main du médecin un petit sac de toile assez lourd. Puis il reprit. Cet or vous servira pour élever votre enfant.
Hélas, balbutia Pierre Prost, vous savez bien que mon enfant est mort.
Votre enfant est vivant, répliqua le masque noir d'une voix lente et ferme. Souvenez-vous que les événements de cette nuit sont un rêve que vous devez oublier à votre réveil. Il y a quelques heures, vous étiez dans votre chaumière avec une petite fille, la vôtre, qui dormait dans son berceau. Dans quelques heures, vous serez de retour. Une petite fille, la même, dormira près de vous, et depuis hier au soir, vous n'aurez pas quitté Longchaumois. Comprenez-vous maintenant pourquoi je vous dis que votre fille n'est pas morte ?
Oui, répondit Pierre, je comprends. Vous voulez qu'aux yeux de tous, l'enfant qui vient de naître soit l'enfant que j'ai perdu. Vous voulez que ma pauvre petite fille n'ait jamais cessé de vivre.
Je veux cela. Le ferez-vous ?
Je le ferai.
Et ce n'est pas seulement l'apparence, c'est aussi le cœur d'un père que j'aurai pour la pauvre abandonnée. Allez donc, et si vous tenez à votre repos et à votre vie, souvenez-vous, une indiscrétion, ce serait la mort. Et je vous répète que vous ne seriez pas seul frappé.
Le masque noir ouvrit alors la porte basse et conduisit le médecin à travers la neige amoncelée jusqu'à l'endroit où attendait l'équipage, attelé de chevaux frais. Pierre Prost fut placé dans le traîneau. Deux hommes s'installèrent à ses côtés. On mit entre ses bras la petite fille enveloppée dans un de ces manteaux de grosse laine rayée qu'on appelle des roulières et qui servent aux paysans. Les chevaux partirent. On traversa les deux ponts-levis, on passa sous les deux voûtes, puis l'attelage s'élança avec une rapidité vertigineuse sur la pente escarpée qu'on avait mis près d'une heure à gravir et qu'on descendit en quelques minutes. Quand le traîneau s'arrêta près de Longchaumois, le jour n'était pas encore près de paraître. L'ouragan se calmait un peu, mais la neige continuait à tomber à flots compressés. Le médecin ne savait pas qu'on était arrivé, et trompé par la fabuleuse vitesse de la course, il supposait qu'on devait être tout au plus à mi-chemin. « Où sommes-nous ? » demanda-t-il à celui de ses compagnons de route qui lui enjoignait impérativement de descendre. « Vous le verrez, » répondit cet homme. Puis il ajouta, lorsque Pierre Prost eut quitté le traîneau, « Il vous est ordonné de n'enlever votre masque que lorsque vous aurez pris le temps de réciter 5 pater et 5 ave. « Notre Père qui êtes aux cieux, » commença le médecin. En même temps, il entendit le sifflement aigu des patins du traîneau qui coupait la neige glacée. Ce bruit s'éloigna rapidement. Lorsque Pierre Prost eut récité les 5 pater et les 5 ave, il arracha son masque. La porte à claire-voie de son enclos se trouvait à 2 pas de lui. Il rentra, le cœur brisé, dans sa maison déserte. La petite fille fut couchée dans le berceau vide. Le médecin alla chercher la chèvre, et les lèvres de la pauvre enfant s'attachaient avidement à la mamelle gonflée de la nourrice aux cornes noires. Puis, après avoir bu, elle s'endormit. Pierre Prost put alors laver son poignet sanglant et regarder l'objet mystérieux glissé dans sa main par la malheureuse inconnue. C'était un médaillon en or ciselé, d'un travail exquis et portant l'image d'une petite fleur sauvage, d'une églantine tracée en diamant. Quant au sac de toile donné par le masque noir, il contenait 10 000 livres en or, une somme énorme pour cette époque. Au point du jour, un paysan de Longchaumois vint demander au médecin des nouvelles de sa petite fille, qu'on savait frêle et presque mourante. « Merci, voisin, » répondit Pierre Prost. « Elle va mieux, beaucoup mieux. Et maintenant, j'espère qu'elle vivra. » Il avait raison d'espérer. Au bout de quelques semaines, l'enfant si pâle et si chétive naguère n'était plus reconnaissable, tant elle devenait fraîche et forte. Elle promettait d'être un jour, comme disent les paysans, un beau brin de fille. Seulement, ce fut dans le pays un sujet de grande surprise et presque de scandale quand on vit le médecin, un bon chrétien cependant s'il en fut, donner à sa fille un nom de fleur au lieu d'un nom de sainte et l'appeler Églantine.